Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le Super Catch-up, le premier de l'année. Nous sommes en 2024. Une nouvelle année commence à la WWE. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, de bonnes fêtes en notre compagnie puisque nous avons distribué les Catch-up Awards lors d'une émission mythique de 4 heures disponible d'ores et déjà sur toutes les bonnes plateformes. On a distribué les awards pour le meilleur, mais aussi on a mis quelques taquets, quelques cartons sur les gros flops de l'année à la WWE. Je vous invite d'ores et déjà à aller écouter cette émission de gala qui a réuni l'ensemble de l'équipe, y compris Giscal qui est avec moi pour analyser ses premiers shows de l'année. Salut Giscal.
Salut, salut Yarem, salut tout le monde. Bah écoute, oui, encore une fois, bonne année à tous, bonne année à toi Yarem. Et en effet, soirée mythique, on est encore en gueule de bois là. On s'en est pas remis encore.
Ouais. Et pourtant, il faut enchaîner.
La WWE enchaîne toujours.
Ouais. Dès le 1er janvier, janvier, on a fait appel aux catcheurs, aux catcheuses, à tout le staff, à toute l'équipe du show rouge, pour nous proposer tout simplement un événement exceptionnel, probablement le meilleur Raw de l'année déjà. Hein. C'est inscrit en 2024, c'est Day One. Alors Day One avant c'était un pay-per-view, et puis maintenant c'est tout simplement un spécial. Voilà, un spécial Raw, et ça commence, nous sommes à San Diego en Californie jusqu'à, et ça commence eh bien, avec un gros plaisir, voilà, un gros kiff, un match féminin. Un match féminin pour bien commencer l'année,
bien mon démarrer Giscal. L'année.
Ouais. Becky Lynch versus Nia Jax qui vont s'affronter pour en découdre. Hein. Becky Lynch, Nia Jax, voilà, le gros passif, le gros coup de poing, le nez cassé, la naissance de The Man, la disparition de Nia Jax, et les deux femmes se retrouvent dans cette grosse rivalité. Et un match qui a réussi à emporter la foule à San Diego. On était chaud à San Diego, et même devant ce Becky Lynch versus Nia Jax, ma foi, qui était un match tout à fait honorable sur l'échelle de Nia Jax. C'était peut-être même un des meilleurs matchs de Nia Jax. Est-ce que c'est un des meilleurs matchs de Becky Lynch? Je ne sais pas, elle est tellement forte cette Becky Lynch, hein, vous le découvrirez en écoutant nos awards. On a eu notamment des Samoan Drop assez fou là depuis la seconde corde. The Man là, qui était prête là pour la victoire, mais un énorme coup de poing, un énorme uppercut vient tout simplement arracher le visage de l'Irlandaise. Et puis derrière, c'est Nia Jax qui, après avoir contré une dernière offensive de Becky Lynch, va placer sa descente du fessier, sa descente des fesses, pour la victoire. 1, 2, 3, victoire de Nia Jax, qui laisse donc une Becky Lynch commencer l'année avec une grosse défaite et le visage ensanglanté dans une image qui nous rappelle évidemment
forcément
ce qui s'était passé il y a quelques années. Bon, ben bah voilà, c'est parti, hein. On commence l'année très fort, là. Très très fort, à Monday Night Raw.
Oui, on commence l'année comme on avait commencé la précédente, enfin, comme on a fini la précédente, plutôt, avec Becky Lynch qui joue les seconds couteaux, manifestement, un petit peu, là. Victoire surprenante, enfin, en tout cas, me concernant, c'est vrai que j'étais assez surpris. Un match pas dégueu, faut reconnaître ce qu'il y a, faut être honnête quand même. Elles se sont bien foutues sur la tronche. C'était assez divertissant. Nia Jax, continue sa petite opération rédemption à mes yeux. Si tant est qu'elle me doive quelque chose, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que je reconnais que là, son run récent est pas inintéressant. Alors. Je suis un peu partagé sur ce résultat parce que d'un côté, je me dis que j'avais pas spécialement envie que ça dure non plus des plombes, cette rivalité. Donc, c'est vrai que cette victoire, quand même, laisse penser que a priori, on va quand même pas en rester là. Et en même temps, je peux pas non plus leur reprocher de bah, d'avoir un tout petit peu d'ambition pour une fois dans un programme féminin, parce que, bah, parce que cette décision de booking fait quand même preuve d'une certaine ambition, on peut le dire. La facilité aurait clairement été d'évacuer le programme avec une victoire sans coup férir de Becky Lynch. Voilà, on connaît la différence de niveau, la différence dans la carte et même la différence de, enfin voilà, de potentiel à venir sur l'année à venir. On sait que Becky Lynch va pas non plus végéter 107 ans dans cette position là. Mais ils ont choisi un autre chemin qui est que manifestement ils ont l'air de, voilà, de vouloir prolonger un petit peu ça et garder du momentum sur Nia Jax, en faire peut-être une Monster Heel crédible. Et écoute, ma foi, je pense que ça reste un choix assez intelligent, parce que la WWE et la division féminine ont besoin, je pense, d'un petit peu de, voilà, de profil dominant, surtout côté méchant. Bon, écoute. Bien, et puis le petit callback, c'est sûr, avec, avec ce spot, l'uppercut un petit peu chanceux, et puis derrière ce alors c'est assez dur pour les Français, c'est Annihilator, là, enfin c'est tout un jeu de mots avec Annihilation et Nia Jax, là, mais son finisher, et bah, comme ça, c'est ouais, encore plus impactant avec, avec la bouche en sang et tout, là, donc ouais, visuellement pas mal, voilà, un début de show. Je peux pas dire que j'ai pris un pied de dingue, mais voilà, je reconnais, on va dire, l'ambition, et puis le fait que c'était, ouais, c'était pas si mal que ça.
Ouais, un beau pari, hein, de la WWE, de booker ce match en opener, une foule qui a mordu dedans, en plus.
Ouais, bien réagi, ouais, c'est vrai.
Ouais, quelques near falls là sur la fin, notamment ce gros Samoan drop là, hein, qui venait contrer un super Man Handle Slam là depuis le turnbuckle,
oui.
Qui était en train de préparer Becky, qui était vraiment une séquence bien fichue, et puis des filles qui sont effectivement bien balancées dans la tronche, des power bombs, les armbars, qui ont été placés. Et donc, bah écoute, je suis comme toi, voilà. Je pense qu'effectivement, je sais pas quel résultat j'attendais vraiment de ce match. La WWE avait une idée, visiblement, et je suis d'accord. Je suis d'accord, il faut y aller avec des programmes. On s'est suffisamment plaint en 2023 de l'absence d'intérêt, même qu'avaient les bookers et les scénaristes sur la division féminine. Bah là, visiblement, on veut nous raconter une histoire, on veut nous booker une grosse méchante, et du coup, c'est Nia Jax qui s'y colle, et Becky Lynch, ben, qui commence l'année comme elle l'a un peu passé, effectivement, en servant un petit peu de, pas de marchepied, mais de propulseur pour aller envoyer la mid-card vers le top. Donc bah, Becky Lynch qui commence bien l'année en faisant du bon travail. Cody Rhodes, Nakamura, et oui, on continue, hein, nouvelle année, mais c'est les mêmes histoires, mon bon Giscard. Avec Cody Rhodes qui vient discuter, lui dit bah voilà, c'est la nouvelle année, mais il est toujours bloqué avec Nakamura, donc même lui il en a conscience. Alors les jolis poèmes du japonais, les poisons là qu'il lui envoie dans la tronche, tout ça, voilà, ça devrait être un petit peu terminé, quoi, cette histoire. C'est Cody Rhodes, il veut finir beaucoup de choses, mais il procrastine un petit peu, hein, Cody Rhodes.
Il termine rien,
il commence plein de trucs, mais il termine rien. Un peu son gimmick. Nakamura apparaît sur l'écran. Bon, il nous rappelle qu'il veut terminer l'histoire de Cody et enfin terminer le livre, hein, le Book of Cody. Et il crache sur la caméra. Bon, c'est pas très sympa, même s'ils ont mis
un
bout de plexiglas, mais c'est pas. Voilà, on est loin de la Covid mania. Hein, ça, c'est... maintenant, on peut cracher comme ça. Il n'y a pas de problème sur le staff technique, c'est pas ouf. Et puis ça se termine là-dessus, donc on va sûrement retrouver ces petits bonshommes, ces petits santons, la semaine prochaine.
Exactement, mais ça a été booké, hein, ça a été booké.
Ça a été validé, ok, bon ouais. Bah voilà.
Et même un match qui a eu lieu à l'heure où nous enregistrons.
Ah oui. Effectivement, là, commencer l'année, on va essayer de commencer l'année avec des bonnes résolutions,
oui.
En vous proposant des analyses qui soient le plus proche du temps réel. du temps réel. Mais là, voilà, le début d'année, vous savez comment c'est, le temps que, voilà, de se remettre un petit peu des émotions
festives,
des petits fours, voilà, les crevettes, pas toujours très fraîches, les escargots, pas toujours bien fourrés, mais vous inquiétez pas, l'année est partie pour Cody Rhodes et Nakamura, voilà, ça continue, je sais pas s'il y a grand chose à dire, si ce n'est que, voilà, le petit programme de Cody qui devrait s'achever avant le Rumble, quoi.
Bah oui, c'est vrai que bon, on attend qu'il passe quand même à autre chose, en effet, et cette promo donnait un petit peu le sentiment d'une redite de ce qui de quand il avait déjà lu son compte. Bon là, on a rappelé le compte et puis redire revenu au milieu du ring en disant ah là là, il faut que je règle mes problèmes et puis en fait c'était pas ce soir, donc bon, c'est dispensable, on va dire, et en effet, on attend que ça se termine.
Un peu d'action avec un match qui est la conséquence des actes malicieux hein, de la part d'Imperium qui avait attaqué le Père Noël 2 semaines auparavant.
Oui,
Le Père
ça se
Noël
fait pas,
étant
ça.
Kofi Kingston et Jey Uso vient donc sauver à l'arrêt qui était soutenu à la rescousse du Père Noël. Le match est booké, Kofi Jey Uso contre Imperium. Mais alors le match, ben, il va pas aller loin et le match il va un petit peu. Il a failli faire dérailler l'émission. Hein. Il y a eu après un espèce de tempo un peu étrange. Puisque à la 6e minute, eh ben, Giovanni Vinci, c'est le coup du lapin. C'est le coup du lapin pour Giovanni qui se prend un dropkick par Kofi, par le Père Noël. Le Père Noël qui s'est bien vengé là, qui a tout simplement tué l'homme qui a essayé de, qui, voilà, qui essaie de gâcher Noël. Et bah, le show s'arrête. Hein, la décision arbitrale, évidemment très compréhensible, voilà, hein, avec le mec tout simplement, bah, il retombait en plus la tête percutée le sol. Hein, il a pas, il était assommé, donc Giovanni, il n'a pas pu ralentir, absorber sa chute. Et puis c'est le coup du lapin. Et bah voilà. Donc la commotion cérébrale, on va peut-être faire attention à ces choses-là. Il a eu du mal à repartir. Et tout le monde est un petit peu, tout le monde est un petit peu, il y a un gros flottement. Vraiment, Kofi, Jey Uso, Imperium, l'arbitre, on était un petit peu en train de demander, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on arrête le match. Et puis, bah, c'est Jey et Kofi qui remportent le match par décision arbitrale. Pas grand-chose à dire hein, jusqu'à voilà. Hein,
Bah ouais, non, non, malheureusement,
un fait de
match
match, un fait de
avorté.
match.
Un fait de match, un fait de jeu, c'est ça. Donc, mais on peut saluer, bah écoute, très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien. Il faut pas prendre de risques avec ce genre de choses, les chocs à la tête, à la nuque et tout. Donc, à la limite, voilà, s'il y a juste un truc à dire, c'est de saluer la réactivité de l'arbitre et des soignants de tout de suite. Voilà. Lancer le protocole médical, on va dire, et de pas aller plus loin. C'était pas un match à gros enjeux en plus. Et puis même d'ailleurs, même si ça avait été un match à gros enjeux, voilà, faut pas rigoler avec ces choses-là. Donc, je suis content de voir que, en tout cas, ouais, ils n'hésitent pas à tout de suite stopper. Et puis, bah, on reprendra ça tranquillement la semaine prochaine.
Giovanni va bien, il a tweeté, il a dit je vais bien. Point
Parfait.
d'exclamation. Miss TV. Ah, le Miss TV. Oh, oh. Que dire, que dire. Eh bien, on va vous dire quoi dire. Invité
Quoi dire?
spécial, invité spécial, le Judgment Day, représenté par R-Truth, qui débarque, qui dit, mais si, qui nous dit, ben, ils sont où, le Judgment Day, ils sont là derrière moi. Ah, ah ben, ils ont dû
Ah bah ils
glisser,
sont
là.
pas là.
Ils ont dû glisser, ils sont passés. On lui bise, lui dit, bah attends, c'est R-Truth, tu sais, tu revois des gens invisibles, imaginaires, là. Alors, en référence évidemment à Little Jimmy. On demande à ce que Little Jimmy est dans les parages. Donc on sent tout de suite qu'on va partir dans un petit quart d'heure assez drôle. Voilà, assez
Oui.
drôle. R-Truth s'assied. Hein, d'ailleurs, il n'y avait qu'une chaise, alors que tout le Judgment Day était invité. Donc je sais pas quoi.
Ouais, on va pas nous la faire à
On
l'envers,
nous prend pour des endives, là, c'est pas possible. Et donc il dit, alors, bon, ça fait quoi d'être dans l'équipe? Alors il dit, bah écoute, Chouf est très occupé, voilà. Notamment à essayer de rendre cette équipe plus populaire qu'elle ne l'est déjà. Hein, je vous invite à écouter les Catch-Up Awards pour mesurer le taux de popularité de Judgment Day. Et puis McDonough, JD, hein, mon petit JD favori, et Domino, mon petit Domino favori, arrivent et disent, y en a marre, y en a marre, y en a marre. C'est quoi le bordel? Chouf dit, mais toi, JD, t'as été viré. Dominique se prend voilà, sa petite salve de huée pour bien commencer l'année. Il envoie quelques taquets au Miz. Le Miz lui répond évidemment. Voilà, que ça fait de s'être pris une bonne fessée par ton père, là. C'était à WrestleMania, rappelez-vous. Et puis après, tu t'es pris une déculottée par CM Punk juste avant les vacances. Donc ton année à toi était pas ouf non plus. Dominique, il balance, voilà, il challenge pour un match, mais R-Truth, c'est le dilemme pour R-Truth, jusqu'à, c'est le dilemme, parce qu'il sait pas dans quelle
Oui.
équipe il est, du coup,
Ben non.
Bah oui, il est Judgment Day, mais en même temps, il est avec le Miz. Qu'est-ce que c'est ce bordel? D'ailleurs, le Miz qui veut relancer tout simplement le Awesome Truth. Hein. Rappelez-vous, cette grande équipe il y a 10 ans, du Miz et de R-Truth. Et donc, le match va être lancé avec le Judgment Day représenté par McDonagh et Mysterio d'un côté, et le Miz va contre le Miz et donc R-Truth de l'autre. Mais pendant tout le match, R-Truth il va être un petit peu pris, là, hein. Il ne sera pas trop avec qui il est vraiment. Il pense que c'est tout simplement un test que lui a lancé Dominic.
Pas fou, Mysterio. Pas fou.
Et oui, donc ça va être très très drôle. Il va y avoir plein de, voilà, d'ententes et de mésententes entre tout ce beau monde. Truth qui combat le Judgment Day, mais voilà, un peu arculon. On a notamment un cheap shot là sur Truth qui va l'envoyer au plancher, et puis derrière on a Miz qui balance Mysterio à l'extérieur, et puis McDonagh qui arrive et qui se fait qui se prend un gros coup de boule, et c'est le tag pour R-Truth. On sait peut-être ce qui se passe dans ce moment-là. On a Truth qui finit par... Le Miz est tenu par JD, je crois, hein, sur la fin. Et oui. Il dit, vas-y, frappe-le. Et R-Truth dit, non, mais c'est mon pote. Et finalement, il frappe JD McDonagh, et le Skull Crushing Finally est placé. Alors que... Juste avant, R-Truth dit réincarnation voilà,
de Shawn Michaels.
Shawn Michaels, ouais. Et Eric Flair.
Avec Ric Flair.
I'm sorry, I love you.
Ouais, c'est exceptionnel.
Exceptionnel. Mais le Miz voilà, finit par s'en sortir et placer donc son skull crushing finally pour la victoire. Et JD. Et Dominique qui s'en vont sous les clins d'œil bien appuyés de R-Truth, qui a bien compris que tout ceci n'était qu'un test. Et donc,
oui, voilà. Une initiation à la dure.
Et oui, voilà. Voilà. R-Truth.
Ça fait du bien.
Ouais. Ça fait du bien. Il nous avait manqué. Hein. Il nous avait manqué.
Ouais. Non, excellent. Un petit bonbon, voilà, au milieu de ce Raw, ce match, moi j'ai surkiffé. J'ai adoré ce match qui était un très très bon, un excellent match de catch comédie, comme la WWE sait parfois produire. C'était extrêmement drôle, bon évidemment grandement aidé par R-Truth, mais pas que. Hein, évidemment R-Truth c'est la star de ce match parce que bon, que ce soit la promo d'avant. Et pendant tout le match, les spots très inventifs, on va dire, de ouais, j'ai pas souvenir de quelqu'un qui ne sait pas dans quelle équipe il est pendant un match tag team et qui se retrouve dans le mauvais coin, qui refuse de taper certains machin et tout. Enfin, c'était très très amusant. Mais à côté de ça, le Miz, comme toujours dans ces environnements-là, et c'est très très bien, voilà, cabotiner et jouer le jeu, et donc il a été excellent. Mais JD et Dominic Mysterio, on en a parlé pendant les Awards, mais moi c'est une petite paire du Judgment Day qui me plaît beaucoup. Je trouve que cette petite tag team secondaire, on va dire, du Judgment Day, qui est clairement un peu la tag team de loser qu'on envoie toujours au feu ou qui se retrouve voilà, dans ces segments plus légers. D'ailleurs, j'apprécie plus de voir qu'en effet, R-Truth est... Avant Noël, on avait dit, bon, c'est sympa la R-Truth, Judgment Day, bon, vraiment, on s'amuse beaucoup. Mais j'aimerais qu'ils écornent pas trop, on va dire, l'aura de badass, on va dire, du Judgment Day. Mais le fait de les mêler avec JD et Dominic, qui sont justement dans ce rôle-là, hein, de sous-fifre, souvent dans les segments ouais. Un peu ridicules, et tout de suite beaucoup plus efficace, on va dire, et plus malin. Et donc, bah voilà, tout ça a donné un super cocktail. JT McDonagh, moi, je continue à adorer ce qu'il fait dans le ring. Je trouve que c'est un excellent seller. Il est très agréable à regarder se faire taper dessus, en fait. C'est un très, très bon heel choir. Dominique, toujours aussi excellent. Donc, tout ça nous a donné un très joli petit segment de relâche. Et maintenant, la question va être... Est-ce que Awesome Truth, et jusqu'où ça va aller tout ça quoi? Est-ce que c'était un one-off? Est-ce que R-Truth va réussir peut-être à rejoindre tant bien que mal le Judgment Day? Enfin, tout ça avance tranquillement, mais c'est sympa cette mid-card, low-card là.
Ouais, on a bien rigolé. Hein. Le moment où tu as R-Truth qui tient JD, qui veut faire le tag sur Dominique pour le faire rentrer, il me dit mais qu'est-ce que tu fais? C'était assez mythique. Oui. Tout aussi mythique, la célébration des nouvelles championnes tag team, Kaden Carter et Ketana Chance. On est en boîte, voilà, on fait péter le champagne, stroboscope, la grosse techno, on célèbre tout ça. Et puis, on a Piper Niven et Chelsea Green qui viennent simplement gâcher la soirée. Elles demandent un rematch, mais elles se font expulser par la sécurité alors que la musique reprend pour une célébration en diablé. Ouais. On enchaîne sur le match de championnat féminin, sauf si tu as quelque chose à déclarer
non,
sur
non,
cette
rien du
séquence.
Tout. Je trouvais ça naze, mais non, non. Ouais,
ouais, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant sur cette séquence en particulier. On a eu un match de championnat dans la division féminine. C'est Rhea Ripley qui a affronté Ivy Neal. On avait un petit peu peur, Giscal, quand même. On avait un petit peu peur de ce match. C'était un petit peu balancé, un petit peu de nulle part. On le craignait même. Hein. Tu l'avais craint et puis tu l'as eu au final. Donc toi...
Mais oui, je l'ai eu.
Ouais, ta peur s'est matérialisée sous tes yeux. Et écoute. Elles ont réussi à s'en tirer. Elles ont réussi à s'en tirer dans un match d'une dizaine de minutes. Au début, c'était difficile. Ivy Neal, elle est super green. Mais bon, face à Rhea Ripley, c'est sympa. Rhea Ripley, elle a les petits gabarits, donc elle les balance dans tous les sens. Je pense qu'Ivy Neal, il y a un petit souci. Il faut qu'elle découvre qui elle est. Elle ne sait pas encore qui elle est entre les cordes, parce que c'est une badass, toute en muscle comme ça, une petite nerveuse toute en muscle. Et qu'au début du match, elle faisait plutôt des trucs de luchador là, à sauter dans tous les sens, mais à glisser à moitié sur les cordes. C'était pas terrible. Et puis après, il y a une espèce de deuxième partie de match où tout d'un coup, elle était un peu plus nerveuse. Elle cherchait un peu plus la bagarre. Elle essayait un petit peu de faire tomber Rhea Ripley. Et là, c'était tout d'un coup, c'était un petit peu plus maîtrisé, un peu plus sympa. Et puis finalement, ça a commencé à durer plus longtemps que prévu. Et puis la foule a commencé à embarquer. Et sur la fin du match, la foule était à fond dedans. On a notamment eu des German Suplex depuis la troisième corde. Mais Rhea Ripley a résisté au compte de 3, les échanges de coups de pied, et puis Rhea Ripley qui place un énorme headbutt, coup de boule sur Ivy Neal qui s'est lancée depuis, je crois, c'était depuis le turnbuckle. Hein. Elle fait un saut comme ça, l'autre elle vient la cuire d'un énorme coup de boule, s'en est suivi le Riptide après lui avoir placé un énorme coup de genou, et donc la victoire de Rhea Ripley qui donc conserve son titre. Voilà, première défense de titre, on dirait Rhea Ripley 2023, c'était pas forcément trop ça en termes de défense de titre. Là, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, voilà, premier jour, le titre est défendu, Rhea Ripley est donc toujours championne. Ouf.
Oui, c'est ça, il n'y avait pas trop de doutes possibles. Bon, c'était le principal souci de ce match, mais pas que. C'est vrai que je l'avais redouté avant les fêtes, avec ce face-off. Complètement foireux et forcé là après le match contre Maxine Dupri, qui était déjà lui-même un petit peu exagéré. Je sais pas, ouais, on se posait déjà des questions. Enfin, en tout cas, je m'en posais des questions sur qu'est-ce qu'il voulait faire avec Rhea Ripley, parce que c'est voilà, on lui a beaucoup reproché de pas beaucoup défendre son titre, de pas être dans des grosses rivalités l'année dernière, et de lui faire enchaîner toute la low card d'Euro. Je pense pas que ce soit ce qu'on attend d'elle. Donc déjà, le match contre Maxine Dupri était un petit peu... je trouvais que c'était pas forcément la meilleure décision de booking. Mais alors en plus, derrière, le face-off laissait présager. Je le voyais venir gros comme une maison, le title shot bidon. D'ailleurs, on va voir, c'était la semaine des title shots un peu bidon côté femme, hein, puisqu'il y a eu exactement la même chose côté SmackDown. C'est pas lui rendre service, c'est pas rendre service à Ivy Neal. Je trouve qu'elle a pas eu le sentiment qu'elle ait beaucoup brillé. En effet, comme tu dis, j'ai eu le sentiment, tu l'as très bien résumé, d'avoir quelqu'un qui se cherchait, qui n'avait pas vraiment ni de personnage ni d'identité dans le ring, catchesque. Je dis pas que c'était brouillon, parce que globalement tu sens que la nana en a sous le pied, mais pas spécialement intéressant, tu sais pas trop qui tu regardes, tu vois. Moi j'ai pas pu m'empêcher de vraiment me dire que c'était un peu une Zoé Stark low cost, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ce profil là on l'a déjà, on a déjà eu cette opposition qui était beaucoup plus efficace, beaucoup mieux vendue avec avec Rhea Ripley. Donc ouais, je trouve qu'on n'a pas spécialement rendu service à Ivy Nile de la jeter un peu au feu comme ça. Et puis Rhea Ripley, ouais, bah voilà, le match n'avait pas de suspense. On continue, je trouve, à... C'est des victoires, voilà, à triompher, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, hein, comme on dit. Ouais, je sors de ce match-là sans avoir l'impression que ni l'une ni l'autre n'y a gagné grand-chose, si ce n'est nous avoir encore fait voilà, de la poudre aux yeux un peu. Oui, regardez, Rhea Ripley a défendu son titre. Mais à aucun moment, à aucune seconde de ce match, on a tremblé, quoi.
Non, on n'a pas tremblé. Par contre, tu as tremblé quand on nous a annoncé le retour d'un ancien champion WWE. Je le sais,
ah oui, ça.
Triple H, oui. Il a tweeté, il a dit « Attention, ce soir, une ancienne gloire, un ancien champion WWE sera de retour. » La foule tremble, roulement de tambour, des petits sons indiens retentissent, car c'est Jinder Mahal qui arrive sur le
ring. Ah, les coquins.
Jinder Mahal. Oh, la tête des gens dans le public, c'était délicieux. Les gens étaient... outré de voir effectivement Jinder Mahal. C'est vrai, on est tous là à dire quel champion. Eh ben oui, Jinder Mahal, ancien champion WWE, voilà, qui avait surpris tout le monde, mais qui nous avait proposé un excellent programme de heel. Il a quand même battu Randy Orton dans une cage en bambou là. C'est assez incroyable. Il est là, et alors là par contre, ça a duré des plombes, sa promo, pour dire que tout simplement les Américains sont des mauvais patriotes, c'est des gros nazes, c'est un ancien champion, personne ne le respecte. Dans le public, il regarde, où est l'unité des États-Unis? Ah, où est ce pays? Dans les États-Unis, il y a UDI, mais où est l'unité? Regardez, qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous êtes, l'Amérique n'a jamais été autant divisée. Hein, vous êtes une ancienne gloire du passé, mais maintenant vous êtes juste une grosse blague. Mais lui, Jinder Mahal, va tous nous unir, et il suffit de l'écouter. Et là, il commence à parler, évidemment, dans sa langue natale, hein, qui devrait être le canadien, normalement, mais bon.
Oui.
On les connaît, les canadiens.
Ne tire pas le rideau comme ça sur...
Non, excusez-moi. Dans canadien, il y a presque indien, finalement.
Donc, oui. C'est peut-être ça. C'est un canadien. C'est ça.
Voilà, donc il se fait tout le monde le hub. En fait, ce qu'il avait fait, c'était en Punjabi, il a lu l'hymne national américain, en fait. Donc il nous a fait la bonne vieille blague de nous faire huer quelque chose qu'on est censé aimer quand on est américain, évidemment. Et puis voilà. Donc, et puis ça s'interdit. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer quand soudain la musique du rock retentit et c'est lui, la véritable gloire, l'ancien champion WWE, enfin non, les deux sont d'anciens champions WWE, mais celui que finalement la foule attendait le plus peut-être, le Rock débarque sous une énorme ovation, voilà, la foule est en délire, effectivement, on est à San Diego quand même.
Michael Cole est en délire aussi. Hein.
Michael Cole est complètement fou. Michael Cole, qu'il fasse attention à son, voilà, à son petit cœur, Michael Cole.
Ouais,
s'il veut terminer l'année. Et puis bon, voilà, c'est parti pour la destruction en règle de Jinder Mahal par Le Rock. Voilà, ça fait des petites comparaisons avec l'Iron Chic. Iron Chic, rest in peace, l'homme du peuple, voilà, qui se fait un petit peu tenser aussi par Jinder Mahal, qui se moque à chaque fois du Rock qui vient quand ça le chante. Et puis dit non, moi je suis le peuple, je suis le champion du peuple, voilà, j'assume. Moi ça me fait plaisir de voir tout le monde. Toi tu te fais huer. Mais la vérité, c'est pas à cause de parce que t'es un étranger, mais c'est parce que t'es comment il lui dit, je sais plus, un con, enfin c'est censuré, donc on ne sait pas.
Ouais, t'es nul et t'es pas drôle, je sais pas quoi.
Bref, vous connaissez, hein, les promos du Rock, ça s'enchaîne, ça dure une plombe. Je vais pas tout vous faire la promo du Rock pour qui a détruit Jinder Mahal. Mais voilà, à la fin, Jinder Mahal tente d'attaquer le Rock, et puis le Rock tout simplement détruit Jinder Mahal avec le People Elbow, et il prend le micro, et c'est là, enfin, où ça devient intéressant, Jinder,
oui.
Giscal, bon, j'allais dire mon beau Jinder, mon beau Giscal.
Mon beau Jinder, tu me fais trop d'honneur.
Ouais, oui, je sais, tu ne mérites pas cette comparaison avec le grand Maharaja. Il dit, ouais, ici on a San Diego, c'est, j'ai un peu faim, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que je pourrais aller? Peut-être que je devrais me mettre voilà, dans un petit coin. Alors, comment on dit ça? Une petite cabine? Enfin, tu sais, voilà, je sais pas comment on pourrait dire en français. Voilà,
ouais, je sais pas comment tu traduis ça.
C'est ça. C'est des petites banquettes, là, individuelles. Enfin, voilà, un petit comité. Ou alors aller directement au bar, c'est bien. Aller commander au bar.
C'est sympa de venir manger commander au bar là-bas. Ouais, ça
ouais. Ou alors, je pourrais me mettre à la head of the table, au bout de la table.
Au bout de la table.
C'est comme un enfant, c'est puni.
C'est tout de suite moins sympa, en français. Je pourrais aller me mettre au bout de la table. Je pourrais aller me mettre sur cette chaise, au bout de la table.
Sur la rallonge. Voilà,
sur la rallonge.
Sortez les rallonges. Et donc, évidemment, la foule est en délire, parce qu'on a tous très bien compris, ils voulaient revenir. Le gros clin d'œil à Roman Reigns est là. If you smell what The Rock is cooking.
Oui.
Et voilà. Et toi, t'as senti ce que le Rock nous cuisinait, là ?
Ah, j'ai senti la bonne recette du Rock qui mijotait. Waouh. Quel drôle de segment. Moi, perso, j'ai surkiffé ce segment. Bon, moi, je suis très, très client du Rock. Hein. Moi, voir le Rock insulter et détruire au micro un heel, j'adhère. C'est pas tant pis hein, pour ceux qui n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé ce contre-pied. Voilà, très, très, très malin. En plus, qui plus est, avec un catcher que j'apprécie beaucoup. Moi, Jinder Mahal, c'est quelqu'un que... c'est un mec que j'aime bien. J'ai trouvé que son run de champion du monde était super, très très sous-coté, et donc d'une certaine manière j'ai trouvé que ce faux hommage, voilà, ils se sont servis de lui un petit peu pour faire ce contre-pied. Je trouvais que c'était un joli clin d'œil, voilà, à son règne. C'était sympa de l'utiliser lui, parce qu'ils auraient pu le faire avec d'autres, hein. Donc c'était très sympa de l'utiliser lui. D'ailleurs, je pense que c'est de mémoire récente, c'est vraiment la première... Enfin, c'est très 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 longtemps que j'avais pas entendu une telle déception audible dans le public. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais quand... parce qu'ils avaient demandé à Samantha, là, d'annoncer dans l'arène, et maintenant, nous avons le retour, voilà, d'un ancien champion du monde, parce qu'il l'avait bien teasé et tout. Et là, il y a la musique qui retentit, et t'as vraiment... tu entends les épaules de tout le monde, les épaules de tout le monde s'affaissaient, tu vois, genre c'est vraiment tout le monde était super déçu, donc déjà rien que ça c'était énorme. Et puis bon, voilà petite promo, ça à la limite on s'en fiche, même s'il s'en est très bien sorti. Et puis le Rock après, c'est pour le fun. Allez, peut-être ce qu'on pourrait dire, c'était peut-être un peu long, notamment parce que maintenant on sait que c'était pas du tout l'essentiel de son retour, donc c'était peut-être un petit peu long, la destruction verbale, d'accord, mais bon, quand même, déjà les frissons quand il arrive, et puis alors quand il balance sa punchline, je vais m'asseoir au bout de la table, comme tu l'as très très bien traduite, là il y avait clairement la chair de poule, parce que le public est devenu fou. Et moi aussi, ça y est, on va l'avoir, on va y avoir le droit à ce match, ouais. ce dream match, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, ouais, pour moi, là, ce match absolument fou qui s'annonce. Je pense pas que tu puisses faire plus gros, de toute façon,
non,
à la WWE. C'est le choc des titans. Là, Roman Reigns est devenu un tel monument, on en a parlé aux Awards, hein. C'est Ringside qui est arrivé tardivement lors de nos Awards, l'a très bien dit, c'est la face de la WWE maintenant, WWE Roman Reigns, hein. Quand tu penses catch, tu penses Roman Reigns, quand tu penses WWE, tu penses Roman Reigns, c'est déjà une légende de la compagnie, et il va affronter peut-être un des, je sais pas, des top, ça dépend de vos mots Rushmore perso, mais enfin un top 3, top 4, top 5 de l'histoire de la WWE, sans doute à WrestleMania 40, tu peux pas faire plus gros que ça, donc cette toute petite annonce là droppée à la fin de sa petite passe légère, je pense que ça a fait dresser les poils sur pas mal de bras dans l'arène et dans le monde.
Donc ça y est, hein, l'affiche là tout d'un coup, WrestleMania, le main event et...
Et puis les implications.
T'as une image forcément énorme, et puis derrière les implications, parce que évidemment, évidemment qu'on va voir Roman Reigns versus The Rock en nuit 2 main event de WrestleMania 40. Là, ça y est, c'est inscrit dans le marbre. Mais, comment ? Je ne sais pas exactement comment tout ça va se passer, mais en tout cas, voilà, ça c'est la place est prise. Voilà, le mec, il est arrivé, il s'est mis au bout de la table, et puis c'est bon, c'est pris, c'est pour moi. Et derrière, les implications, pour ceux qu'on imaginait pouvoir prétendre à cette place en bout de table, eh bien, ça envoie un peu tout le monde en salle d'attente, en fait.
Et oui.
Et derrière, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, là, pour tous nos amis qui ont des histoires à terminer, notamment.
Là, bah oui, ils étaient nombreux hein, quand même à vouloir finir leur histoire.
Bah là, ils ont mis tu mets le marque-page et puis
on verra la prochaine fois parce que ouais, là
on verra la prochaine fois. En tout cas, énorme, énorme, énorme. On aura l'occasion d'en reparler. Peut-être que les choses vont se dégager. La façon d'ici le Rumble, on va attendre le Rumble. Ça va aussi éclairer. Mais voilà.
Il se passe beaucoup de choses déjà d'ici le Rumble. Il va se passer déjà pas mal de choses. C'est très très chaud pour Roman Reigns déjà. Donc. Il est dans la tourmente. Hein.
Oui. Là, c'est. Et s'y attendait pas. On s'y attendait plus trop, en fait. C'est vrai que c'était amusant à signaler. Tout paraissait presque déjà programmé, ce WrestleMania 40. Et ils arrivent à nous la faire un peu à l'envers. Un petit peu doublé sur la droite. Hein. Oh, bah, qu'est-ce qu'il fout là c'est moi, c'est Dwayne Johnson. Voilà, c'est moi, c'est Dwayne. Derrière, ça retombe. Ouh, la chute.
Ah, c'est dur. Hein. C'est dur de passer derrière.
Ouais. Voilà. Le coup de Blizzard.
Ils n'ont pas pris de risque.
On envoie la division tag team féminine avec Baszler et Zoe Stark qui vont tout simplement coucher Natalia et Tegan Nox pour une petite victoire dans un match où tout le monde dormait bien. Tout le monde a bien dormi.
Ouais.
On arrive au main event avec ce match de championnat Drew McIntyre versus Seth freaking Rollins. C'est quoi? C'est la deuxième. Après leur match de l'année dernière, Drew McIntyre contre Seth Rollins pour le titre de champion poids lourd. Un gros match. Les deux hommes se connaissent très très bien. On arrive sur la fin, on a le curb stomp, le futur choc DDT, le curb stomp qui est évité, pour un enchaînement avec le futur choc DDT, la claymore qui est lancée, mais derrière, Rollins balance une énorme powerbomb et McIntyre résiste au compte de l'arbitre. On prépare le Phoenix Splash, McIntyre l'écossais évite la descente de Seth Rollins, la claymore est évitée également avec un énorme super kick, le pedigree, mais McIntyre ne tombe pas, ne flanche pas, quand soudain retentit la musique de Damien Priest. Est-ce qu'on y va? On l'avait peut-être un petit peu oublié lui aussi, ce bon vieux Damien.
Peut-être.
Hein, Damien qui arrive avec Domino, un arbitre, la mallette Money in the Bank. Seth Rollins qui se bouffe la mallette du senior, l'arbitre n'a rien vu, l'encaissement de la mallette est en cours, mais c'est la claymore kick sur Damien Priest c'est Domino qui avait la mallette, je crois. C'est Domino qui avait la mallette.
Non, c'est Priest.
Damien Priest. C'est Priest. Voilà. Domino qui veut intervenir, mais il se fait éjecter justement. Par l'Écossais, qui revient sur le ring et qui place la claymore kick sur Seth Rollins. Mais le pied de l'infâme Seth Rollins, l'architraite, est posé sur la corde. Et donc Drew McIntyre, le rêve de Drew McIntyre, se transforme une seconde fois en cauchemar. Tout le monde se retrouve à l'extérieur du ring. La table des commentateurs avec Seth Rollins et Drew McIntyre. Seth Rollins qui fait le pedigree sur la table des commentateurs. Il le ramène, le cœur tombe pour la victoire. 1, 2, 3. Le rêve se transforme en cauchemar pour l'Écossais et le cash-in de Senior Money in the Bank est évité.
Eh oui.
Eh bien, écoute, on commence l'année avec un statu quo.
C'est ça.
Avec un énorme main event, mais un statu quo quand même.
Qui ne change rien. C'est un peu ça la morale de l'histoire parce que bon, on peut parler du match qui était excellent. Magnifique main event, difficile de demander mieux pour démarrer l'année. Très 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 gros main event qui n'aurait renié, je pense, aucun PLE. Ça c'est sûr. Ce finish, voilà, c'est cette touche de folie là qui soudain embrase le stade, parce que on va pas se mentir, il y avait déjà, quoi qu'il arrive, il y avait eu un très très beau build-up pour ce rematch. Hein. Voilà, les promos entre les deux avaient été très intéressantes. Seth Rollins, lui, en plus, est tiraillé un petit peu partout parce que il enchaîne les défenses de titre. CM Punk l'a un petit peu tensé la semaine dernière. Drew McIntyre continue de courir un peu derrière lui. On se dit que bon, il y a peut-être un moment où ça va être un petit peu too much pour le bon Seth Rollins. Et puis on se dit aussi qu'il y a peut-être un moment où ça va être le moment aussi pour Drew McIntyre qui a une exposition énorme hein, depuis quand même de nombreuses nombreuses semaines. Donc on allait au devant de ce match avec une certaine tension, il y a une petite incertitude. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi ça m'aurait pas choqué qu'on démarre l'année avec un coup de théâtre et un changement de titre. Donc déjà l'atmosphère, on va dire le décor était plutôt bien planté. Le déroulé du match aussi, parce que voilà, c'est extrêmement disputé, beaucoup beaucoup de phases de domination de Drew McIntyre, et puis comme je disais, voilà, ce petit vent de folie à la fin avec l'arrivée de Damian Priest, qui voilà, bah, là forcément on rentre, bah, c'est les fins de main event souvent overbookées que moi j'aime beaucoup, où là tu lâches un peu prise et tu te dis tout peut arriver. C'est vrai que là d'un seul coup les scénarios sont multiples, victoire, cash-in, victoire puis cash-in, défaite, et c'est aussi moi, c'est ce qui s'est passé, mais tout est possible. Mais voilà, après une fois que le brouillard est redescendu et que le résultat, la décision s'est faite, bah oui, statu quo, comme tu dis, pas de mallette cachée, pas de changement de titre, et un petit pincement de mon côté, je comprends d'une certaine manière ce qu'ils essayent de faire, mais ça commence à tirer un peu sur la longueur pour Drew McIntyre, qui... C'est-à-dire que cette histoire de il a personne d'autre à blâmer que lui-même, et il peut plus se chercher d'excuses ou je sais pas quoi... on a compris. Enfin, oui, ok, c'était déjà ça la dernière fois, quoi. Donc là, on en remet une couche d'une certaine manière parce que c'est lui qui se fait perdre tout seul. Hein. C'est lui qui met le pied de Seth Rollins sur la corde. Donc évidemment, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Mais j'ai un peu envie de dire, ouais voilà, on est déjà au courant, quoi. Donc je trouve pas qu'il y a un développement de dingo. Damian Priest qui rate encore son cash-in, voilà, je sais pas si j'ai peur qu'il loupe un peu le coche, je sais pas ce qu'il cherche un peu avec Drew McIntyre. Manifestement ils ont de l'ambition, parce que il a une, encore une fois je me répète, mais il a une exposition qui malgré les défaites sous-entend quand même des vrais projets. Je trouve qu'il y a un développement de personnage, une profondeur dans les promos qu'on lui donne, qui n'est pas anodine, et qui fait que voilà, il y a manifestement quelque chose de prévu. Mais bon, c'est du Triple H, hein. On prend son temps, parfois trop, parfois voilà. Là, je sais pas. C'est vrai que voilà, ce côté statu quo m'a laissé avec un goût un peu bizarre dans la bouche. Oui, après ce main event, j'ai l'impression qu'on est passé à côté de peut-être quelque chose qui aurait pu vraiment secouer la route vers le Rumble et la route vers WrestleMania, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Donc, écoute, il faut encore patienter.
Eh oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Là, ça me fait un petit peu peur en plus, moi. Ça me fait un peu peur pour Drew McIntyre. Je suis inquiet pour l'Écossais. Tu l'as dit, ça me ressemble vachement quand même à la fin de. Enfin, c'est une dernière tentative, quoi, pour Drew McIntyre.
Bah, enfin, ouais.
Aussi direct, quoi, pour aller décrocher ce titre. Et ça prend une direction qui, moi, m'inquiète un petit peu, on va dire, en termes de qui on va... Enfin, à quoi vous ressemblez ? On revient à ces affiches qui vont émailler le programme de WrestleMania. Et ça m'embêterait que Drew McIntyre soit sur la touche, quoi. C'est pas un mec que je veux voir sur le banc. Je veux pas le voir, ce mec, sur le banc.
Et les places sont très chères, là. Hein.
Mais les places sont très chères. On a peut-être assisté, là, à une première... Une première victime. Une première victime,
bah, peut-être. Non mais ouais, ouais je suis d'accord avec toi, c'est un petit peu ce à quoi ça ressemble. Il va peut-être falloir aussi se... Alors c'est des problèmes de riches, hein, c'est sûr, ouais. Mais il va peut-être falloir se résigner aussi au fait que le retour de CM Punk, qui était prévu de longue date, pas prévu, une opportunité soudaine... et puis d'un seul coup là le Rock qui a blanchi son planning de 2024 côté Hollywood manifestement il va peut-être falloir aussi accepter le fait que on va rentrer peut-être dans 3-4 mois de pilote automatique sur les top programmes parce que les affiches que ces retours impliquent sont tellement monstrueuses que mais il n'y a pas de place pour tout le monde donc en effet peut-être
ouais. Bon bah espérons que tous ces mecs mis un peu sur la touche durant cette période de la route vers WrestleMania qui de toute façon c'est pas un problème nouveau hein, c'est quasiment chaque année on y a droit les retours qui tout d'un coup parasitent ou occupent tout d'un coup le programme de WrestleMania. L'année dernière, on avait réussi à aller jusqu'au bout des histoires. Hein, c'était vraiment les storylines qui avaient amené les main events.
Oui, tout à fait.
Peut-être que cette année, on va retourner à un WrestleMania de grands galas avec des grands retours, des grandes affiches, des stars qui sont plus grandes que tout et plus grandes que les histoires qui nous étaient racontées là, depuis plusieurs mois. Donc, courage Drew, voilà. Moi j'ai une petite pensée pour toi, dis courage, accroche-toi.
Courage Drew et courage Cody peut-être aussi. Mais ouais.
Ouais, courage Cody. Ouais, on a eu deux victimes là, qui sont peut-être tombées
peut-être,
là.
Peut-être deux victimes coup sur coup, ce Raw a des implications assez fortes. Mais c'est vrai que si tu reviens en arrière de 2 mois en arrière, bon, non pas que tout soit booké et sûr à 100%, on n'est pas des devins non plus de la carte de WrestleMania, mais si on revient 2 mois en arrière, tout l'emphase qu'il y avait sur Drew McIntyre laissait penser que peut-être, 2024, début 2024, qui sait, est-ce que ce serait peut-être pas lui le champion poids lourd à WrestleMania, ou en tout cas, il serait dans la title picture, pourquoi pas, ce serait pas du tout déconnant, et Cody Rhodes... on se disait bien qu'il allait peut-être pouvoir finir son histoire sur un an et demi et puis re-challenger, tout semblait en tout cas le destiné à ça. Il y avait eu des face-offs, il y avait eu des graines plantées qui étaient loin d'être subtiles, on va dire, avec Roman Reigns. Et puis d'un seul coup, ouais, là sur l'enchaînement sur Survivor Series et puis maintenant, tout est bouleversé et ça va vite, ça va très très vite. Hein.
Ça va très très vite. Allez. L'heure du mot de la fin, Giscal, ton top, ton flop et ta note pour ce premier Raw de l'année 2024.
Eh bah écoute, mon top, je vais pas faire dans l'originalité, mais y a un truc qui m'a marqué sur cet épisode, c'est indéniablement le retour du Rock et cette punchline finale. Alors c'est un top, c'est sûr que j'ai pas été, c'est pas une surprise ou c'est pas un moment peut-être qui fera l'unanimité, mais en tout cas moi j'étais comme un gamin, c'est le genre de petite punchline. Tu sais, je me revoyais à la grande époque des WrestleMania où t'avais, c'est les annonces un petit peu à la Shawn Michaels aux awards de fin d'année qui mic drop un petit l'Undertaker, j'en ai pas fini avec toi ou un truc comme ça. T'sais, c'est des petites phrases où 3-4 mois en avance, tu dis oh putain le dream match qu'on va se taper là. C'est des petits moments comme ça où moi je suis comme un fou, je retombe en enfance là, j'ai adoré ce moment. Et mon flop, difficile hein, franchement, difficile de trouver un flop, un épisode extrêmement costaud. J'ai envie, pourquoi pas, c'est petite déception, c'est pas un flop parce que j'aime beaucoup le programme qui se profile aussi, mais une petite déception pour cette fin de match de main event qui a peut-être des implications un petit peu tristounettes pour notre ami Drew pour WrestleMania 40. Donc c'est plus une déception de contexte. Voilà, c'est la faute à pas de bol, pas de paume, mais bon voilà, c'est petit flop là-dessus. Et puis ma note, je l'ai dit, show extrêmement solide, quel début d'année. Un bon gros 4, bien costaud. Bon gros 4 pour ce Raw qui a lancé 2024 sur les chapeaux de roue à Raw.
Écoute, moi, mon flop, je te rejoins sur ce que tu as dit. Moi, je vais le donner à la promo de Jinder et du Rock, qui était beaucoup trop longue. Beaucoup trop longue. Franchement, ils m'ont perdu. Alors, j'étais content de revoir les deux, toi, mais alors, c'était beaucoup trop long. Mon top, eh ben, je vais le donner à R-Truth, qui nous a bien fait rigoler. Et ma note, ça va être un 3,5. Un 3,5 pour un Rock qui était assez... Enfin, comment dire, qui a pris beaucoup de son temps sur plein de segments et qui est parti un peu moins dans tous les sens que d'habitude. Donc je trouvais que c'était plutôt sympa. Qu'est-ce qui s'est passé dans le show bleu ? Eh bien, on va aller voir ça avec SmackDown. Nous sommes le 5 janvier, on prend l'avion, nous allons à Vancouver. Et là, autre salle, autre ambiance, même si c'est tout simplement dans... la tête de la table, le bout de table qui arrive.
Il y avait le bout de table
qui sort de sa voiture pour aller régler quelques problèmes. Visiblement, il a des choses à dire. On lui demande son avis, avis qu'il ne donnera pas sur le retour du Rock, hein, et cette petite pique qu'il a lancée. On reverra donc le chef tribal et Paul Heyman tout au long de cet épisode. Ce sera notre fil bleu. On commence avec tout simplement jusqu'à la finale du tournoi pour devenir challenger au titre des États-Unis entre Kevin Owens et Santos Escobar, qui a repris tous ses atours de leader de la faction Legado del Fantasma, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà, avec juste un petit changement de sous-fifre, hein, puisque maintenant c'est Humberto et... Enfin, Angel et Humberto, hein, ils changent tout le temps de nom et de prénom, eux, c'est des cousins, c'est la cousinade, voilà, moi je préfère ce Santos Escobar là, qui arrive là, avec son tapis, ce marchand de tapis là, il a la classe ce Santos Escobar, mais il ne va pas aller jusqu'au bout, puisqu'il va perdre son match face à Kevin Owens, alors que Logan Paul était présent aux commentaires. D'ailleurs, les commentaires de Logan Paul, c'est pas ouf. C'est devenu plus intéressant qu'il a commencé à chauffer un peu la salle en prenant sa ceinture. Mais Logan Paul va falloir s'entraîner, hein, parce que les commentaires au micro, on l'entendait pas beaucoup, puis il disait des banalités, c'était pas très excitant. À part dire « Kevin Owens, regardez-moi ce gros nul », c'était pas ouf. La pop-up powerbomb sur Santos Escobar et le stunner pour la victoire donc du Canadien, qui ira donc affronter Logan Paul au Royal Rumble, si je dis pas de... Oui, au Royal Rumble, hein, pour défendre le titre US, le titre américain. Logan Paul qui dit, regardez, c'est certainement pas un Canadien qui va gagner le titre des États-Unis. Et Kevin Owens lui met un gros punch, voilà, le one punch sur Logan Paul, qui est complètement sonné. Alors c'est le one punch avec la telle, hein, la telle de Kevin Owens, voilà, qui ne l'aura pas empêché de gagner dans ce gros opener là de SmackDown.
Absolument. Bah écoute, énorme opener. Moi, j'ai énormément kiffé ce match. Beaucoup plus long en plus que ce que je pensais qu'on allait avoir. Enfin, c'était très très sympa. J'ai bien kiffé voir Santos avoir autant d'offensives. Écoute, très très bonne finale, très sympa. En effet, je suis d'accord, petit point négatif, on va dire, sur l'apport de Logan Paul pendant le match, qui n'a pas été inoubliable, loin de là. Assez surpris d'ailleurs qu'il soit pas plus à l'aise dans cet exercice, mais comme quoi ça ne s'improvise pas non plus. Autant il est capable, dans des micros en discussion, on va dire, avec un adversaire qui lui donne le change, d'être tout à fait d'ores et déjà très à l'aise et convaincant. Mais quand il s'agit, pourtant il anime un podcast. J'étais assez surpris. Je trouvais qu'il était soit il s'en battait un peu les reins, pas très en verve en effet. Ouais. Mais bon, ça changeait pas le fait que très très bonne finale de tournoi. Et évidemment, bon, le bon vainqueur étant donné le champion, donc ça va nous donner, ça va nous donner un match. J'imagine au Rumble, ils vont se garder ça pour le Rumble parce que c'est quand même une bonne affiche. Donc ça va être cool, et je suppose qu'il va y avoir quelques petites promos entre les deux, plus sympas que les commentaires de Logan Paul.
Ouais, je pense aussi, j'espère. Croisons les doigts. On enchaîne derrière avec... une petite séquence, juste pour en terminer avec ça. Logan Paul se fait interviewer par Katie Kelly, mais aussi une théorie, Grayson Waller, viennent pour le cajoler, hein, lui faire un gros câlin. Oui. On a un locardeur XYZ, en l'occurrence Cameron Grimes, qui arrive. Il dit, je suis content que tu aies pu rencontrer Kevin Owens. Il dit, qu'est-ce que tu racontes, dégage. Et puis, voilà, tout ce beau monde, repart. Donc, ça va se croiser. Ça va se croiser, tout ça, les théories, les Waller, qui vont faire le boulot en l'absence de Logan Paul pour occuper Kevin Owens. Et puis, on met un petit peu de low-card pour aller jusqu'au Royal Rumble. Bobby Lashley, les Street Profits, on en a parlé lors de nos Catch-Up Awards. On en parle aussi lors de l'analyse de ce SmackDown. Bobby Lashley dit bienvenue à SmackDown, bonne année 2024. Ouais. Parce que l'année 2023, c'était pas ouf. C'était l'année la plus compliquée de ma carrière. Voilà. Alors, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Ça dépend, c'était quoi tes objectifs en fait.
Oui, on n'avait pas eu ses objectifs, donc on ne sait pas.
Ah oui. Donc ça se trouve, il a réussi. Il est trop modeste pour le reconnaître. Mais par contre, il est content. C'est sa réussite en fait, c'est de s'être allié aux Street Profits. Et donc, ils vont tout simplement rouler sur tout ce qui bouge, récupérer ce qui leur appartient. Et Bobby Lashley nous annonce qu'il sera participant au Royal Rumble. Ouais, ça y est, hein, on commence à prendre ses places. Ils ont raison, ils ne font pas trop tarder. Ils ont vu ce qui s'est passé à Raw, là, les mecs qui prennent les places à WrestleMania. Donc, on prend ce qui reste, c'est-à-dire des places au Royal Rumble. Je pense que c'est une bonne, c'est une bonne solution.
Une bonne tactique, c'est vrai.
Karrion Kross apparaît sur l'écran géant. Oh là là, qu'est-ce qui se passe?
Oh là là,
TikTok, tactique, tac. Et puis tout d'un coup, il arrive sur scène sous le titantron avec Scarlett. Voilà. Et des gens apparaissent, des silhouettes menaçantes apparaissent à leur côté. Paul Ellering, ancien catcheur, ancienne gloire, hein, et manager à ses heures perdues à NXT, les a rejoint et leur dit mais qu'est-ce qui se passe ce d'ailleurs il est tout voilà il n'a pas vieilli, ça fait 10 ans qu'il est disparu,
non, mais il bouge pas, hein.
Ouais, il bouge pas, c'est une poupée de cire, mais il n'est pas venu seul. Giscal, Akam, Rezar, AOP, ce clan, cette équipe de NXT attaque Bobby Lashley et les Street Profits, et donc on a la naissance d'une nouvelle faction en ce début d'année avec Karrion Kross qui est rejoint par AOP pour la photo finish. Ben voilà, le temps des factions n'est pas terminé, le temps des factions
reprend
et continue. Ce n'est que le début.
Exactement. Encore une surprise. Et plutôt une bonne surprise. Moi, c'est vrai que j'étais plutôt fan de AOP. Et je me demandais en plus récemment ce qu'il foutait. Alors, tu vois, parce que je suis pas très au taquet sur les news, les blessures, les machins. Je sais pas, est-ce qu'ils étaient blessés, est-ce qu'ils étaient écartés, est-ce qu'ils étaient plus sous
et
contrat.
Du coup, t'as découvert, t'as trouvé
Alors non, je me suis pas renseigné. Je suis juste content de les revoir. Oui, vas-y, dis-moi.
Les mecs se sont lancés dans un programme. Ils sont devenus où ils ont tenté de devenir les premiers catcheurs du Meta Universe, du Metaverse.
D'accord.
C'est le truc de Facebook, écoute. Je sais pas quoi là. Okay. J'ai pas compris exactement quoi ça consistait. Je pense que non plus on n'a pas compris. Je pense que Triple H il a pas compris.
Mais on va revenir. Ouais, d'accord.
On va faire du vrai catch.
Oui, s'il vous plaît. Écoute, très content de les revoir et on va voir. Triple H a plutôt quand même, on va dire globalement, un bon track record. Alors, on connaît sa passion pour les factions avérée, hein, parce que, il suffit de regarder la WWE pour le voir, pour le savoir. Mais il a plutôt quand même un bon track record, on va dire, sur le booking de ses factions sur les 2-3 dernières années. Donc, allons-y gaiement. Moi, je suis très content de revoir AOP. Karrion Kross, pour moi, ça a toujours été une énigme, ce mec, parce que je trouve que Il a quelque chose, mais ça n'a jamais fonctionné. Enfin, c'est forcé de constater que ça n'a jamais pris. Mais il est très imposant. Il a plutôt quand même une bonne gueule. Il a une super entrée, une magnifique manager. Enfin, on a l'impression que ce mec a tous les arguments du monde pour percer, mais ça ne fonctionne pas. Bah, écoute, peut-être que ce sera ce coup-ci. En tout cas. Voilà pour lui une nouvelle chance, on va dire, de faire valoir ses qualités. Surtout qu'il a l'air d'être présenté en plus pour comme clairement être la force de frappe solo de cette faction, parce qu'il s'est tout de suite attaqué à Bobby Lashley, tandis que AOP se sont attaqués aux Street Profits. Donc voilà, je suis écoute excité, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, je suis très intrigué de savoir où tout ça va nous mener. Et puis, ça va enfin aussi donner quelque chose aux Street Profits et à Bobby Lashley à faire, tout en validant aussi leur alignement de babyface. On arrête de tourner autour du pot. Donc, je n'ai que des positifs dans cette petite intervention.
Eh bien, c'est le bon moment dans ce cas pour attaquer avec la séquence suivante, puisque nous avons aussi un match de championnat dans la division féminine du côté du show bleu. Io Sky, notre championne, ta championne, Giscale, affronte Michin dans un match donc pour le titre. Alors au début, ça part mal. Oh là là, au début, ça a du mal à se trouver un peu entre les deux. Ça tatillonne, c'est pas super clean. Et puis tout d'un coup, le match bascule dans un gros n'importe quoi qui m'a fait lever de mon canapé plus d'une fois en me disant « Mais elles vont se tuer, ces filles-là. » Notamment avec ce Styles Clash tenté depuis la deuxième corde par Michin sur Io Sky qui tombe. Et ça ne suffit pas. Io Sky donc, qui se prend après derrière un saut suicide de Michin, mais elle l'évite. Alors, et là, Michin, elle s'écrase face la première sur le sol. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se tuer ce soir. Derrière le running double knee contre la barricade. Et Io Sky qui place son moonsault pour la victoire par tombée. Un petit peu un match miroir avec celui de Monday Night Raw. Une défense de titre avec de la low card. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les filles n'arrivaient pas à se connecter. Sur la fin, je ne sais pas si elles arrivaient à se connecter, mais on a tenté des trucs un peu dingues. Bon, bah écoute. Moi, voilà. Sur la fin, je me suis dit, bah, c'était sympa. On a failli voir deux ou trois fois des accidents industriels se produire sous nos yeux, là, des accidents sous nos yeux. Je ne sais pas si c'est ça qu'on veut voir, mais.
Non.
Bon, c'est ça qu'on a eu.
C'est ça qu'on a eu, ouais. Bah écoute, oui, match miroir, comme tu dis, c'est-à-dire aucun intérêt dans la challengeuse, aucun suspense, mais alors une prestation nettement moins convaincante, en tout cas en ce qui me concerne, avec j'ai pas du tout compris quelle était l'idée de ce match. Encore une fois, je trouve que personne n'en sort grandi. Encore moins la championne ici. Alors voilà, je m'acharne, mais autant Rhea Ripley, on va dire, a pu dérouler et dominer, on va dire, contre Ivy Nile. Enfin là, hormis mettre, j'ai plutôt trouvé très en difficulté sur ce match, Io Sky. Donc je sais pas si c'était l'objectif, mais en tout cas, si c'est l'objectif, faudra m'expliquer l'idée. Donc c'était une défense loin d'être tranquille pour elle, parce qu'en effet, je trouve qu'on a donné quand même beaucoup d'offensives. Un Michin qui est tout en bas de la low card, vraiment. Et en plus, c'était pas très propre. Tu l'as dit. Écoute, on démarre 2024 comme on a fini 2023. Côté Io Sky, c'est. Mais bon, ça plaît à certaines personnes, je sais. Donc, je vais m'arrêter là.
On retrouve Io Sky juste après. Moi, je m'arrête pas. On retrouve Io Sky dans une petite séquence derrière backstage avec Damage Control. Tout le monde fait ses objectifs. Contrairement à Bobby Lashley, on prépare les objectifs pour le reste de l'année. On va être championne par équipe. On va gagner le Royal Rumble. Ça va être formidable. Mm-hmm. Et puis Bianca Belair arrive et dit non, c'est moi qui vais gagner le Royal Rumble. Division tag team masculine avec les Pretty Deadly ce soir qui affrontent notre ami Boubouch, mais Boubouch est tout seul hein, parce que Ridge Holland est parti du côté de NXT pour se refaire la fraise. Et du coup, on a un partenaire mystère, et ce partenaire mystère n'est pas si mystérieux pour ceux qui connaissent un petit peu la carrière de Boubouch, c'est Tyler Bate, voilà, un poteau de NXT UK, l'homme qu'il avait affronté pour être le premier champion UK. Hein, de NXT UK, Tyler Bate, oui. Qui avait gagné, il avait 19 ans à l'époque. 19 ans, quand il avait battu Butch pour devenir le plus champion. Donc voilà, un generational talent qui avait fait les belles heures de NXT UK, qui avait un petit peu vivoté à NXT dans des programmes où il servait de second couteau. Et là, il va tout simplement remplacer Ridge Holland avec Boubouch. Alors, une belle alchimie entre les deux hommes. Hein. C'est Boubouch, le teigneux, le vicieux, et Tyler Bate, le rigolo, une espèce de petit Daniel Bryan, comme ça, qui fait le zouave tout en étant très technique et qui affronte évidemment l'équipe. Moi, j'annonce, hein, ce qui serait, eux, s'ils ne sont pas sur le podium des top équipes 2024 cette année, J'en mange pas mon chapeau, mais presque. Hein. Les Pretty Deadly, Elton Prince et Kit Wilson. Mais c'est pareil, division tag team, il y a du beau monde. Et le match va être remporté donc, par les Britanniques avec voilà, une double powerbomb sur Kit Wilson avec, après qu'il y ait eu au moins une dizaine de phalanges qui ont été explosées pendant ce match.
Eh oui. Bah écoute, ouais, ouais, c'est vrai que vivement quand même, hein, je pense qu'il est temps de re-scinder quand même les titres tag team, parce qu'il y a, y a quand même énormément d'équipes à la WWE maintenant, et des équipes de qualité. Donc ce serait vraiment dommage là, qu'ils continuent à traîner là, avec ces Undisputed Tag Team Championship là, qui sont sur le Judgment Day. Je suis très content qu'en tout cas le Judgment Day peut en garder une moitié, hein, y a pas de problème. Mais là, il faudrait donner un petit peu à manger aux autres parce qu'il y a de quoi faire. Et voilà, une autre équipe qui se rajoute au mix. Ok, écoute, Tyler Bate, moi je suis pas un grand connaisseur. Butch. J'aime bien Butch, hein. C'est pas, on va dire que c'est pas l'équipe la plus enthousiasmante. Alors moi, je suis content dans le sens où ils ont pas essayé d'en faire trop des caisses en mode c'est parce que souvent voilà peut-être qu'il a retenu la leçon aussi quand même Triple H parce que
regardez c'est Tegan Nox, oh mon Dieu,
ouais début 2023 il avait quand même le chic hein, pour nous faire des arrivées en fanfare de nobody, hein, parce que, enfin voilà, je suis désolé, mais à partir du moment où vous avez beau faire vos gammes à NXT ou NXT UK, personne vous connaît. Donc il a pas fait une arrivée en grande pompe, un peu cringe de Tyler Bate, comme quoi c'était une méga star. Et donc ça, déjà, je lui en suis reconnaissant. Mais tout de même, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont quand même battu Pretty Deadly, hein, c'est pas rien. Pretty Deadly qui avait fait un petit peu son trou. À SmackDown. Donc écoute, bonne entrée en matière. Je trouvais que le match était très sympa. Pretty Deadly, moi, ça continue à être une équipe dans laquelle je mise pas mal. Je trouve que c'est génial. Il y a un côté très, très vintage, très old school et super rafraîchissant dans cette équipe. J'espère que 2024, comme tu dis, sera une année forte pour eux. Donc, écoute, ouais, c'est... Ça mangeait pas de pain, c'était plutôt bien fait, c'est positif, ça ramène, comme je disais, encore une autre équipe qui manifestement une équipe de qualité. Donc cette scène tag team continue de se renforcer, vite, donner des ceintures pour animer tous ces programmes.
Ouais. Sinon, on va se retrouver un peu dans la même situation dont on parlait avec les titres de champion du monde qui sont tellement bloqués. Qu'on a plein de mecs super talentueux qui sont mis sur la touche, quoi. Et on a envie de voir ces mecs-là être récompensés et se chasser pour le titre. Je suis d'accord avec toi, il faut scinder. C'est quelque chose que j'imaginais que ce serait produit en 2023, ça ne s'est pas fait. Je pense que là, il va falloir le faire. Il va falloir séparer ces titres dans un match où le Judgment Day doit défendre le titre deux fois de suite ou je ne sais pas, quelque chose. Voilà, faites-nous un bon programme sympa comme ça pour récompenser tous ces mecs et partir sur cette année avec une énorme division tag team, une énorme division par équipe, avec des mecs qui ont du talent. Un mec qui a du talent visiblement, mais il n'y a qu'un mec qui le voit, c'est Nick Aldis, et il voit du talent qui en HNT, souvenez-vous, hein, de Hitro. Oui. Il croit en lui, il a des idées pour lui, on en rigole d'avance.
Oui.
En coulisses, Paul Heyman, un peu plus tôt, nous dit que Le Rock a parlé de Roman Reigns, parce qu'il veut s'asseoir au bout de la table.
Oui,
c'est le bordel. Et pour être au bout de la table, fiscal, il faut être invité d'abord.
Ah, bah oui, quand même, c'est le minimum.
On squatte pas, on n'est pas là, j'irai dormir chez vous. Ça marche pas comme ça. Il faut être invité pour pouvoir venir aux idées. Le Rock n'a pas été invité. Il y a deux façons d'être invité, d'être façon d'être au top de ce game. Soit sortir avec Taylor Swift, soit défier Roman Reigns. Tu veux que tout le monde parle de toi. Alors, effectivement, donc, sortir avec Taylor Swift, c'est mort, c'est déjà fait, il y a déjà quelqu'un. Elle est plus célibataire. Par contre, défier Roman Reigns, ça, tout le monde peut le faire. Et tout le monde le fait, jusqu'à là, ces derniers temps. John Cena, Brock Lesnar, Cody Rhodes, tous y sont passés. CM Punk, 10 ans d'absence, le mec revient, hop, il dit qu'il est le OG Paul Heyman guy. Qu'est-ce qu'il fait? Il challenge, évidemment, Roman Reigns. Alors, toujours en étant subtil, hein, les mecs, ils assument qu'à moitié. Randy Orton, AJ Styles, LA Knight, Qu'est-ce qu'ils font? Et bien ce soir, triple frite, et on va en parler, hein, pour avoir l'honneur de se faire détruire la tronche par Roman Reigns au Royal Rumble. Les mecs sont complètement fous. Tout le monde veut se battre contre Roman Reigns, mais personne ne peut battre Roman Reigns. Mon beau Giscard, personne, personne. Mais et oui. Pour, j'en veux pour preuve, le main event, Giscard, puisque on arrive à la fin de ce show, bleu, AJ Styles versus Randy Orton versus LA Knight, un énorme... match, hein, une énorme triple frite quand même pour terminer ce premier show bleu de l'année 2024. Alors, tout le monde se met sur la tronche, on se cherche un petit peu au début. Il y a des alliances de circonstances. Randy Orton et LA Knight évitent de se mettre trop sur la tronche au début et puis à la fin, bah, on est obligé de se mettre sur la tronche. Alors, c'est presque un concours de popularité entre Randy Orton et LA Knight qui est assez sympa à suivre. AJ Styles qui va armer son phénoménal forearm pour Randy Orton, mais le RKO est placé out of nowhere. Et là, LA Knight retire l'arbitre du ring 5 minutes après que AJ Styles ait empêché l'arbitre de faire le tomber.
Oui.
Ouais, le mec il lui arrête là-bas. Ça m'a toujours fait barrer. Et comme c'est un match no DQ, bah, visiblement on a le droit. Hein.
On a le droit de toucher l'arbitre.
Ouais, ouais, on a le droit de toucher à l'arbitre, nous disent les commentateurs. Alors, après, les mecs se prêtent des amendes de 100 000 dollars, mais on a le droit de toucher à l'arbitre, oui. Parce que c'est un ODQ. Ouais, ça m'a fait, dans ce cas-là, effectivement, faut pas se gêner. Donc, LA Knight, il refait la même. Les trois catcheurs se retrouvent annihilés au sol. Voilà, ils se sont neutralisés. Donc, quand la musique de Roman Reigns retentit, avec toute la Bloodline, Jimmy et Solo qui viennent attaquer les catcheurs, et vas-y que ça roule sur Randy Orton, sur LA Knight, sur AJ Styles, tout le monde en prend plein la tronche, le gros passage à tabac, évidemment, c'est no contest, hein, on n'ira jamais jusqu'au bout de ce match. Et là, je sais pas toi Giscard, mais on sent la filouterie, on sent ce qui arrive, puisque Randy Orton, LA Knight et Jay Styles n'ont pas réussi à se séparer, on n'a pas de gagnant, ni Caldis. Et là, il assistait au match, hein, il était assez discret, mais il assistait au match. Et alors qu'en arrière-plan, on a Roman Reigns enragé qui détruit tour à tour les trois participants du combat, on a au premier plan Paul Heyman qui apprend la nouvelle. La nouvelle, c'est que Nick Aldis a booké un Fatal 4-Way pour le Royal Rumble. Félicitations, qui lui dit. Félicitations, tu pourras l'annoncer toi-même à Roman Reigns. Et derrière, cette image, elle est incroyable.
C'est ce qu'il a fait, d'ailleurs.
Ouais, ce qui a été fait dans un digital exclusive qui est tombé effectivement quelques heures plus tard, où il annonçait ça à Roman Reigns. Et Roman Reigns lui a dit quoi, Giscard ?
Fix this.
Yeah, fix this. Répare ça.
Ouais. Répare ta connerie. Bah, j'ai rien fait, moi.
Quelle image pour terminer le show. Moi, j'ai adoré. Ouais. La réal était super.
Quel réal. Ouais, super, super réal. En effet, t'as raison. Ce visuel de Paul Heyman et Nick Aldis en premier plan, avec les yeux exorbités de Paul Heyman qui comprend la catastrophe. Et pendant ce temps-là, Roman Reigns avec son nouveau hoodie Levels Above, là, il est à des niveaux au-dessus de la compétition, qui est en train de célébrer, de narguer la foule et tout, qui ne soupçonne pas ce qui est en train de se passer. Magnifique visuel, très symbolique, d'un champion qui c'est pas qui perd les pédales, mais qui se sent complètement tellement au-dessus de la mêlée, comme le dit son pull en fait, hein, qu'il se permet tout. Sauf que Nick Aldis a décidé que 2024, c'est fin du bullshit, fin de la récréation. Donc très, très, très... j'ai beaucoup aimé ce finish. J'en ai déjà parlé pas mal sur le Discord. C'est vrai que je trouve que là, c'est une vieille, vieille ficelle, hein, le coup du champion Hill qui vient casser le match de ses contenders pour s'en sortir, parce qu'il se dit, si j'ai pas de challenger, bah, je dois pas défendre mon titre, donc j'ai tout gagné. Et ça se finit toujours comme ça, évidemment. Mais je trouve qu'avec Roman Reigns, voilà, c'est particulièrement efficace parce que pour ce que je viens de dire, en fait, le mec en fait a tellement été habitué, peut-être à juste titre d'une certaine manière, parce qu'il est tellement fort, mais à avoir toujours ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut, qu'il s'est dit, bah tiens, voilà, je vais faire ce que je veux comme d'habitude. Et puis ça colle aussi en plus au développement, je trouve, de ce nouveau general manager qui prend de plus en plus de place à SmackDown et qui est et qui est de plus en plus sympa, je trouve, à les interactions de Nick Aldis, là, qui a non content d'avoir la gueule, le charisme et le physique d'un Apollon, là, bah en plus, voilà, se développe un personnage qui, je trouvais assez sympa, de GM, sur qui on ne marche pas sur les pieds, qui est très impliqué, qui veut prendre les rênes de son show, qui veut faire briller son émission. Enfin, je trouve que c'est assez sympa, ça contraste aussi pas mal avec Adam Pearce-Arrow, qui n'a pas le même personnage, qui est souvent... Qui est un bon GM babyface aussi, mais dans un style différent, qui est un peu plus désabusé, qui est colérique, qui se fait un peu déborder par un roster un petit peu plus envahissant. Enfin, c'est assez marrant. Ils ont deux styles différents. Donc je trouve que c'est aussi la petite victoire de Nick Aldis là, ce main event qu'il faut souligner. Et puis d'ailleurs, j'ai pas parlé du match, mais main event monstrueux que j'ai trouvé encore oui. Plus fou que le Drew McIntyre Seth Rollins. C'est vrai qu'on a été gâtés hein, niveau main event cette semaine. Magnifique triple threat. De toute façon, bon, on le sait, hein, la WWE ils connaissent la recette par cœur sur le bout des doigts de ces triple threats qui étaient passionnants. Tout le monde a tiré son épingle du jeu. Ce no contest me convient très bien parce que Seth Rollins, AJ Styles vient de revenir, il n'avait pas besoin de perdre. LA Knight, il faut le garder bien bien chaud, et évidemment, Randy Orton était soi-disant le challenger c'était sûr qu'on allait aller vers Randy Orton, Roman Reigns au Royal Rumble, donc voilà, il fallait évidemment que personne ne perde ici, donc que des victoires sur ce segment, j'ai trouvé que c'était fantastique. Et forcément c'est très excitant ce Fatal 4-Way pour le Rumble parce que changement de vitesse, hein, là, Roman Reigns va devoir se sortir, ouais. Sortir de ce pétrin.
Une configuration inédite, hein, inédite. Ou presque. C'est vrai que je dis que c'était inédite. Il y a eu une seule fois où il avait fait un triple frit, évidemment, à WrestleMania, ouais. Face à Edge, ouais. Et Daniel Bryan. Ça me revient là en même temps.
Ils avaient stacké.
Ouais, on sait ce que ça a donné. Mais là, il y en aura trois, il n'y en aura pas que deux. Il y en aura peut-être trois.
Plus dur.
Est-ce qu'il va les stacker? Je ne sais pas. Mais là, effectivement, une configuration. Alors. Inédite parce que c'est un Fatal 4-Way et qu'il n'en a jamais fait des Fatal 4-Way. Triple Threat, il en avait fait une quand il avait pris le titre, je crois, hein, quand il y avait Braun Strowman et le Fiend. Et puis évidemment, ce main event avec Edge et Daniel Bryan, depuis effectivement que des 1v1. Et donc, rien que ça, c'est rafraîchissant. Voilà, le main event, tu l'as dit, c'est incroyable. Un match de haute qualité, une réale aux petits oignons, des personnages bien campés, un Roman Reigns complètement fou. Et surtout, voilà, ce que j'espérais vraiment, cette configuration. Plutôt que de dire on envoie qui on envoie perdre face à Roman Reigns, et on envoie trois mecs tout simplement, et c'est du no DQ évidemment, mais avec trois bonhommes comme ça en plus dans le ring, les Solo Sikoa et les Jimmy Uso, est-ce qu'ils vont réussir vraiment à avoir l'impact qu'ils arrivent à avoir d'habitude? Quel va être le plan de Roman Reigns pour rester champion sans avoir même à prendre le tombé, hein, pas besoin de prendre le tombé, hein, pour pas de la ceinture, ce serait un sacré coup de tonnerre, hein. En Floride, oui, on sera à Tampa. Ouais. Donc dans la tempête de Tampa, ce serait un gros coup de tonnerre, mais là, Roman Reigns, il va falloir se préparer, il va falloir que notre ami Paul Heyman trouve une solution pour résoudre, mais là, je crois que là, il n'y a pas de solution, ça va falloir d'aller se mouiller le maillot, et puis d'y aller, tout simplement, mon Pascal. Il va falloir y aller.
Oui. Et ouais.
C'est comme ça que se termine le show bleu, et c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note pour cet incroyable épisode de SmackDown du 5 janvier. S'il te plaît, nous étions donc, je le rappelle, au Canada, et ça ne doit avoir aucune importance sur ta note.
Et ça n'en aura d'ailleurs aucune. Voilà. Écoute, je vais commencer par la note, j'ai trouvé que c'était un SmackDown encore plus fort que Monday Night Raw, ce qui est pas simple hein, quand même, hein, parce que Monday Night Raw, on a eu des grosses annonces, des gros segments, mais un SmackDown qui a su mêler des beaux développements scénaristiques avec le début d'une nouvelle faction, l'arrivée modeste mais qu'il faut souligner de Tyler Bate avec la naissance d'une nouvelle équipe, ce main event qui évidemment rebat énormément les cartes, et en même temps un SmackDown qui a été très concentré aussi sur le catch, hein, parce qu'on a eu quand même des très gros matchs, donc j'ai envie de lui mettre un superbe 4,5 à ce SmackDown. Ouh. Que j'ai trouvé quasi parfait, franchement, des super matchs, des développements, C'est vrai que là, cet enchaînement de Day One New Year's Revolution m'a mis dans une ambiance là pour ce début d'année, pour ce Royal Rumble. Bah ouais, très 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 excité. Le flop, il est facile. Hein. C'est pour Io Sky qui continue son règne de terreur sur la division féminine. Et le top, on vient d'en parler, mais ce main event était juste incroyable. Moi, j'ai pas décroché un seul instant. Je trouvais que ce triple threat était magnifique. Et j'ai encore plus hâte maintenant de savoir ce qu'ils vont pouvoir nous faire en Fatal 4-Way au Rumble. Ça va être la folie. Ça va être la folie. Et avec un LA Knight qui, c'est vrai que les awards sont tout frais, donc c'est d'autant plus frais. Mais il faut quand même se dire que le Royal Rumble de l'année dernière, c'était quasiment un de nos flops de l'année avec le Pitch Black match contre Bray Wyatt. Et un an plus tard, le mec se retrouve dans un Fatal 4-Way pour le titre suprême qui va sans doute être le main event du Royal Rumble dans un stade gigantesque contre Roman Reigns, AJ Styles et Randy Orton. Bah écoute, LA Knight, bonne chance en 2024, mais en tout cas, tout continue très bien pour mon petit chouchou.
Ouais, moi mon flop, il va à Logan Paul au commentaire. C'était nul ici, c'était la fainéantise totale. Et mon top, c'est comme toi, c'est ce main event, cette réal, voilà, c'est toutes ces stars. Et puis surtout, cette route vers le Rumble là qui est très 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 excitante. Je suis très excitant. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on pense même pas au Rumble match en lui-même en plus.
C'est fou.
Toi,
l'undercard du Rumble est en train de prendre une belle forme.
Ouais, vraiment là cette année, je suis incapable de te dire, on en reparlera évidemment, mais alors de faire des prédictions quand tu vois que tous les mecs sont occupés et qu'on a presque déjà booké les main events de WrestleMania, et bien malin hein, celui qui sera pronostiqué les gagnants du Royal Rumble, mais ça on aura l'occasion d'en reparler jusqu'à l'évidemment. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple, il suffit de vous abonner à Catch Up sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est également disponible sur YouTube. Le lien vers notre Discord est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, c'est Catch Up CDC. Je vous rappelle évidemment que les Catch Up Awards sont en ligne. 4 heures de grandes soirées de gala dans lesquelles nous décernons les awards, les tops, mais également les flops de l'année 2023. À comparer avec ce qui nous a déjà été proposé là en ce début d'année, tu l'as dit, Giscal, il y a des petites choses déjà à noter. Hein. Déjà dans les fichiers Excel, dans les tableurs. Prenez des notes, parce que souvent à la fin de l'année, on oublie un petit peu ce qui s'est passé. Il ne faudrait pas oublier ce que nous a offert la WWE pendant ce Raw et ce SmackDown qui ont lancé l'année 2024. Merci à toi, Giscal, pour ta présence.
Eh bien écoute, merci à toi, Yerem. Je suis très très heureux d'avoir démarré cette année 2024 à tes côtés. On est reparti pour un tour, hein. Allez.
Ouais. Allez, le coup d'envoi est donné et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao tout le monde. Quelle année 2024 s'annonce ?